Vous écoutez On lit pour vous.
Quand les Canadiens français s'exilaient aux États-Unis. Un texte de Michel Lefebvre paru le 21 août 2025 dans Banque, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Entre 1840 et 1930, près d'un million de Canadiens français émigrent aux États-Unis en quête d'un avenir meilleur. Regroupés en Nouvelle-Angleterre et dans le Midwest, ils créent au sud de la frontière des petits Canadas francophones et catholiques. Le 19e siècle est difficile sur le plan économique pour les Canadiens français. Leur espoir de prendre au Québec une part plus active au pouvoir, alors pratiquement monopolisée par la minorité britannique, se brise lors de l'échec des rébellions des Patriotes de 1837-1838. La population, très majoritairement rurale et tirant sa subsistance de la terre, est concentrée à l'époque près des rives du fleuve Saint-Laurent. Les arrière-terres sont peu accessibles, tandis que le développement de l'industrie accuse un important retard sur celui de ses voisins du sud. Les débouchés sont donc rares pour une population francophone peu éduquée qui se multiplie à un rythme soutenu. Reconquérir l'Amérique. À l'époque de la Nouvelle-France, des coureurs des bois et autres aventuriers avaient fondé plusieurs forts et bourgades dans la région des Grands Lacs, entre autres à Détroit et à Sault Ste. Marie au Michigan. Leurs descendants y vivent encore un siècle plus tard. Le Midwest américain attire donc les émigrants du Canada français, surtout ceux vivant plus à l'ouest, alors que le Vermont et le Maine, plus proches géographiquement du Québec, reçoivent leur lot d'expatriés venus de l'est du Canada. Entre 1860 et 1900, l'émigration canadienne-française vers les États-Unis prend une ampleur inégalée à cause de la mauvaise situation économique du Québec. Grâce à l'expansion du chemin de fer et de l'industrie manufacturière dans toute la Nouvelle-Angleterre, les États au sud du Maine et du Vermont accueillent aussi bientôt leur part d'immigrants. Les manufactures du nord-est des États-Unis, notamment celles du textile, embauchent volontiers ces travailleurs canadiens français non qualifiés, dociles et vaillants, qui acceptent de faibles salaires. On part souvent en famille, car on a besoin du revenu des enfants pour joindre les deux bouts. Parfois, seuls les jeunes adultes traversent la frontière. Ils envoient à la famille restée au Québec une partie de leur salaire afin de rembourser les dettes de la ferme. Les élites demeurées au pays craignent tout d'abord pour la survivance du fait français au Canada, avant de voir dans cet exode une sorte de reconquête catholique et francophone de l'Amérique du Nord. Car à l'époque glorieuse de la Nouvelle-France, la population française était disséminée sur un vaste territoire qui s'étendait de l'ouest des Grands Lacs à la Louisiane, outre le Québec et les provinces atlantiques. On pouvait alors croire que la France catholique était destinée à devenir une puissance incontournable en Amérique du Nord, au même titre que l'Angleterre protestante. La conquête de 1760 devait modifier radicalement la situation. Plutôt que se disperser sur un immense territoire comme leurs ancêtres, les émigrants canadiens français du 19e siècle convergent vers les villes où un noyau des leurs existe déjà, renforçant des groupes qui parviennent ainsi à préserver la langue, la foi et les coutumes du pays d'origine. Parents, amis et voisins du Québec en quête d'une vie meilleure préfèrent aller rejoindre une communauté connue dont ils peuvent espérer le soutien pour obtenir un travail et un logement. Devenir franco-américain. Pendant les premières décennies de cet exode, beaucoup de Canadiens français considèrent leur situation comme temporaire. Nombre d'entre eux passent seulement quelques mois par année aux États-Unis, ou encore quelques années, pour amasser le capital nécessaire à leur réinstallation au Québec. À l'époque, Canadiens et Américains peuvent circuler et travailler de part et d'autre de la frontière sans contrainte. Mais peu à peu, les Canadiens français s'enracinent plus profondément dans leur terre d'accueil. Puisqu'ils bénéficient de possibilités qui n'existent pas dans leur pays natal, ils commencent à envisager de s'installer de manière permanente. De véritables petits Canada se forment au Maine, au Vermont, au Massachusetts, au Rhode Island, au Connecticut et au New Hampshire. Des villes comme Lewiston, Bideford et Waterville vont voir le nombre de leurs habitants canadiens français exploser au cours des dernières décennies du 19e siècle. Au tournant du XXe siècle, les Canadiens français constituent une proportion significative de la population à Holyoke, Lowell, Fall River, Worcester, Central Falls, Waterbury, Nashua et Manchester, par exemple. Dans certaines agglomérations, comme Woonsocket et Suncook, ils sont même majoritaires. Des groupes d'émigrés exigent alors la création de paroisses catholiques spécifiquement canadiennes-françaises. Entre 1860 et 1900, l'Église catholique américaine donne son accord à la mise sur pied de près de 90 paroisses francophones en Nouvelle-Angleterre seulement, sans compter la soixantaine de paroisses mixtes partagées avec des Irlandais. Ces paroisses s'enrichissent au fil du temps d'institutions francophones diverses, comme des écoles, des couvents et parfois même des hôpitaux. Des centaines de religieux canadiens-français répondent à l'appel de leurs compatriotes et traversent la frontière pour enseigner aux enfants ou soigner les malades en français. Les nécessiteux profitent de l'aide offerte par les associations catholiques de soutien mutuel, tandis que les organismes de développement culturel et récréatif veillent à fournir aux paroissiens des divertissements dans la langue de Molière. Cinéma, théâtre et musique pouvaient être au rendez-vous à condition de respecter les convenances. Attirés par les perspectives économiques des États-Unis, un grand nombre de professionnels, avocats, notaires, médecins ou pharmaciens canadiens-français s'expatrient à leur tour afin d'intégrer ces communautés, contribuant à l'apparition d'élites locales. Les commerces appartenant à des Canadiens-Français se multiplient, ce qui offre de nouveaux débouchés aux immigrants, tout en permettant à la collectivité de vivre presque exclusivement en français. Jusqu'aux années 1920, ces communautés effervescentes sont nourries à la fois par une immigration importante et par la venue au monde, au sein des expatriés, de nombreux enfants. En fait, une proportion sans cesse plus grande des Canadiens-Français vivant aux États-Unis sont nés au sud de la frontière et n'ont jamais posé les pieds au Canada. Pour refléter cette nouvelle réalité, on les appellera bientôt « franco-américains ». Résister à l'American Way of Life. Faut-il se fondre dans le grand melting pot américain ou plutôt préserver envers et contre tous les îlots catholiques et français établis aux États-Unis ? Faut-il continuer à rêver d'un retour au Canada français ou tourner résolument le dos au passé ? Ces questions déchireront des générations de franco-américains. Dès le 19e siècle, plusieurs prônent la naturalisation américaine pour assurer aux émigrés du Canada français un pouvoir politique et social accru au sein de leur nouvelle contrée. Beaucoup croient paradoxalement que ce pouvoir doit servir à consolider le rempart que constitue la paroisse franco-américaine, garante de la conservation de la foi catholique, de la langue française et des traditions des descendants de la Nouvelle-France. Mais le danger d'assimilation est partout. La hiérarchie catholique irlando-américaine presse ses fidèles d'adopter l'anglais dans toutes les sphères de leur vie pour favoriser l'acceptation du catholicisme dans un pays bâti par des protestants puritains. Au début du XXe siècle, une nouvelle politique gouvernementale d'américanisation encourage les immigrants de toutes les origines à adopter les mœurs et coutumes de leur nouveau pays. Au fil des générations, des franco-américains de plus en plus détachés de leurs origines se détournent du fait français et de la rigueur de la religion catholique. Le flux de nouveaux immigrants canadiens-français se tarit dans les années 1920-1930. Plusieurs facteurs se conjuguent pour expliquer cette situation. La mise sur pied d'un système frontalier plus strict entre le Canada et les États-Unis, le déclin de l'industrie textile en Nouvelle-Angleterre et la crise économique de 1929 qui appauvrit considérablement les États-Unis. Les communautés franco-américaines se maintiennent de plus en plus difficilement. Après la Deuxième Guerre mondiale, les nouvelles générations plus éduquées, à la recherche de meilleurs emplois, quittent leur paroisse et se dispersent à travers tout le pays. Immergés dans la langue et la culture américaine, loin de leur communauté d'origine, les franco-américains oublient peu à peu leur passé. C'est la fin du rêve de reconquête française et catholique en Amérique du Nord. Aujourd'hui, la communauté franco-américaine est en voie de disparition. La plupart des Hamelin, Thibodeau, La Bonté et Ménard des États-Unis ne comprennent pas la langue de Molière. Mais la curiosité pour le fait français en Amérique, elle, demeure. Chaque année, de nombreux Américains traversent la frontière pour marcher dans les pas de leurs ancêtres canadiens-français. Ils font escale dans les édifices de Bank afin de glaner des images ou des documents qui leur permettraient de revivre à l'envers le périple des courageux expatriés qui leur ont légué leur gène et toute une histoire. C'était « Quand les Canadiens-Français s'exilaient aux États-Unis », un texte de Michel Lefebvre paru le 21 août 2025 dans BENQ, Bibliothèque et Archives nationales du Québec.
À l'étroit, l'ITHQ s'offre un deuxième pavillon dans le quartier latin. Un texte de Leonard Smith paru le 9 juillet 2026 dans Le Devoir. Un deuxième pavillon de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, ITHQ, financé à hauteur de 63 millions de dollars par le gouvernement du Québec, verra le jour à l'automne 2028 dans le quartier latin. Présenté comme le plus grand investissement de l'histoire de l'ITHQ, le projet vise à accueillir 500 nouveaux étudiants inscrits au programme de gestion et à ses deux unités de recherche. Cette acquisition au cœur du quartier latin permettra d'avoir un lieu de savoir qui contribuera à la relève, à la recherche, à l'innovation et au développement de nos communautés, a fait valoir jeudi Chantal Rouleau, ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal, lors de la conférence de presse inaugurant le projet. Situé sur la rue Saint-Denis, à proximité du Cégep du Vieux-Montréal et de l'Université du Québec à Montréal, le nouveau bâtiment de l'ITHQ, d'une superficie de 4600 m², accueillera l'ensemble de sa population universitaire, soit le tiers des 1150 étudiants actuellement inscrits à temps plein à l'école hôtelière. L'Institut propose des programmes axés sur les métiers de la cuisine, de la sommellerie, de la restauration, du tourisme et de la gestion hôtelière. Les deux unités de recherche de l'ITHQ seront abritées dans le nouveau pavillon Gastronomie QC Lab, voué notamment aux sciences gastronomiques, et Expérissance, qui offre aux entreprises un accompagnement pour améliorer l'expérience client. L'espace de nos ambitions. Selon Lisa Froula, directrice générale de l'ITHQ, l'accroissement de la capacité d'accueil de l'établissement était vital pour répondre à une offre de programmes universitaires s'étant diversifiée au fil des années. « On n'a plus d'espace, alors il faut avoir l'espace de nos ambitions », soutient-elle. Lisa Froula explique au Devoir que, dans l'édifice principal, une salle de bain a déjà dû être démolie pour faire du rangement et que l'espace personnel réservé aux étudiants, comme les casiers logés actuellement au sous-sol, devenait de plus en plus restreint. L'ancien plateau sportif de l'ITHQ a aussi fait l'objet d'une reconversion. Le gymnase a été transformé en 60 bureaux. On est obligé d'avoir de l'activité physique pour les jeunes, mais on est incapable d'en donner, déplore-t-elle, tout en expliquant qu'un autre local était loué pour assurer la tenue des activités physiques. Un quartier à revaloriser. Malgré tous les défis auxquels il fait face, le quartier latin a un potentiel immense, explique Chantal Rouleau. Il faut renforcer son attractivité, soutenir sa vitalité commerciale et culturelle, ainsi que favoriser l'occupation de ce territoire. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, avec cette très belle annonce. La Société de développement Angus, une entreprise d'économie sociale axée sur la valorisation du territoire urbain, est le promoteur choisi pour réaliser le projet dans le délai imparti. L'ITHQ fait également appel à la firme d'architecture Provencher-Roy et à l'entreprise de construction Pomerlo en visant la préservation du patrimoine et l'innovation architecturale. C'était, à l'étroit, l'ITHQ s'offre un deuxième pavillon dans le quartier latin, un texte de Leonard Smith paru le 9 juillet 2026 dans Le Devoir.
Le mystère derrière la Madeleine de Proust, enfin expliqué. Un texte de Pauline Gravel paru le 21 juillet 2026 dans Le Devoir. Pour Marcel Proust, le simple arôme d'une Madeleine trempée dans une infusion de thé faisait ressurgir les souvenirs heureux de son enfance alors qu'une tante lui servait ce petit goûter réconfortant les dimanches matins. des neuroscientifiques français se sont appliqués à élucider les réminiscences très particulières induites par ces expériences olfactives vécues dans l'enfance que l'écrivain décrit méticuleusement dans son roman « Du côté de chez Swann », premier volume d'À la recherche du temps perdu. Leurs observations ont été publiées le 14 juillet 2026 dans la revue PLOS Biologie. Dans un premier temps, l'équipe de scientifiques du Centre national de la recherche scientifique, CNRS, qui travaille au Centre de recherche en neurosciences de Lyon, a demandé à des adultes de décrire leurs plus anciens souvenirs olfactifs. Les réponses qu'elle a recueillies ont indiqué que ce souvenir particulier remontant à leur petite enfance, soit avant l'âge de 10 ans, était associé à une odeur plaisante, mais aussi que le contexte dans lequel ils avaient été en contact avec celle-ci était très agréable, voire joyeux, et qu'en général, cette expérience s'était répétée plus de 5 fois au cours de leur enfance. Les chercheurs se sont ensuite inspirés de ces informations pour concevoir un modèle expérimental reproduisant fidèlement chez des souris ce vécu de l'enfance. Ils ont ainsi présenté à 5 reprises à de jeunes souris une odeur qu'elles aimaient, et ce dans une grande cage contenant des jeux, de la nourriture et des congénères. Ils ont confirmé que les souris appréciaient l'odeur et son contexte en mesurant le temps qu'elles passaient à proximité de l'odeur et en enregistrant les vocalises qu'elles émettent lorsqu'elles sont enjouées. Ils ont ensuite observé qu'à l'âge adulte, ces souris manifestaient une préférence très claire pour cette odeur. Elles passaient beaucoup plus de temps à explorer cette odeur particulière que d'autres qui leur étaient inconnues. Et elles ne s'en désintéressaient pas, même quand on la leur présentait à plusieurs reprises, alors qu'elles finissaient par négliger les autres odeurs après s'y être accoutumées. Les souris démontraient une nette préférence pour l'odeur de l'enfance, mais à la condition que celle-ci leur eût été présentée dans un environnement très positif, souligne en entrevue la chercheuse Nathalie Manderon, qui a dirigé l'étude. Si les souris avaient été exposées à l'odeur dans une cage standard, elles n'en avaient gardé aucun souvenir à l'âge adulte. Comme chez l'humain, l'association avec un contexte plaisant est vraiment importante. De profonds souvenirs. Les scientifiques ont ensuite cherché à identifier les réseaux cérébraux impliqués dans cette mémoire olfactive de l'enfance qui perdure longtemps et suscite souvent une grande nostalgie plus tard dans la vie. Ils ont ainsi mis en évidence le rôle central de certains neurones du bulbe olfactif, cette petite structure du cerveau qui reçoit l'information olfactive captée par les récepteurs du nez. On a montré que ces neurones portaient la mémoire de l'odeur perçue dans l'enfance, puisque si on inhibait leur activité, les souris avaient oublié l'odeur à l'âge adulte. Ces neurones sont dotés d'une grande plasticité et ils apparaissent après la naissance de la souris, note Madame Manderon. La plupart des neurones du cerveau sont présents avant la naissance. Le cerveau est entièrement formé avant la naissance, sauf ces neurones-là qui apparaissent le jour de la naissance et encore un peu durant la petite enfance. Même chez l'homme, ces neurones olfactifs particuliers continuent à apparaître pendant la petite enfance, fait remarquer la neuroscientifique. Grâce à des vecteurs viraux qui reconnaissent spécifiquement ces neurones dits néonataux, les chercheurs ont pu les repérer au fur et à mesure de leur apparition dans le bulbe olfactif. À l'aide de marqueurs protéiques, ils ont également pu voir que ces neurones s'activaient uniquement lorsque les souris étaient exposées à l'odeur en question. Seule l'activation de ces neurones induit la production de la protéine de ce marqueur. Souvenirs, récompenses et nostalgie. Les chercheurs ont également remarqué que chez les souris jeunes adultes, le circuit de la récompense participait lui aussi à la réminiscence des souvenirs olfactifs datant de la petite enfance, car il s'activait lorsqu'on présentait cette odeur de l'enfance aux souris adultes. Lorsqu'ils ont regardé les souris plus âgées, ils se sont aperçus que celles-ci ne se souvenaient de l'odeur que si elles y avaient été réexposées quelquefois au cours de leur vie adulte. Sans une telle réexposition, elles l'avaient oubliée et ne présentaient donc plus de préférence pour cet effluve particulier. À cet âge plus avancé, la participation des neurones néonataux du bulbe olfactif et du circuit de la récompense s'était estompée au profit de celle du circuit des émotions, du système limbique. Le souvenir de l'odeur de l'enfance était bien maintenu, mais plutôt grâce à l'intervention du système limbique. Ce qui expliquerait pourquoi les odeurs de l'enfance, quand on est plus âgé, sont aussi très nostalgiques, très émotionnellement positives, note Madame Manderon. Au niveau anatomique, le système olfactif est très étroitement connecté au système de la récompense et au système limbique. Mais la connectivité avec le circuit de la récompense est plus grande chez le jeune adulte, tandis qu'avec l'âge, c'est plutôt la connectivité avec le système limbique qui s'accroît, précise la chercheuse qui souligne le travail de son doctorant Jules Dejoux dans cette étude sur ce qu'ils appellent l'effet Proust. C'était le mystère derrière la Madeleine de Proust, enfin expliqué. Un texte de Pauline Gravel, paru le 21 juillet 2026 dans Le Devoir.
Les aînés aussi accros aux écrans. Un texte de Florence Dancause, paru le 2 juillet 2026 dans La Presse. La surutilisation des écrans chez les jeunes suscite l'inquiétude. Mais qu'en est-il des aînés? Ils sont pourtant de plus en plus nombreux à être captifs de leur téléphone et de leur tablette. Chez les adultes montréalais, les 65 ans et plus se démarquent par leur utilisation intensive des écrans. Ce sont 30% d'entre eux qui y consacrent plus de 4 heures par jour, selon une étude publiée en janvier 2026 par la Santé publique de Montréal. Seulement les 18-24 ans les dépassent. 39% y passent autant de temps. Dans nos dernières données, en 2018, les aînés ne se distinguaient pas. Maintenant, ils sont au-dessus de la moyenne, commente Jean-François Biron, l'un des auteurs de l'étude et chercheur à la Direction régionale de santé publique, DRSP. Ils utilisent aussi davantage les réseaux sociaux. En 2010, 11% les consultaient, alors qu'en 2021, c'était 45%, selon une analyse du Pew Research Center aux États-Unis. Ce n'est pas tout. Ils sont plus nombreux que les moins de 25 ans à posséder des tablettes, des téléviseurs connectés, des liseuses électroniques, ainsi que des ordinateurs de bureau et portables, d'après une enquête menée dans 7 pays par la firme GWI. On a peut-être négligé notre regard envers les aînés, affirme M. Jean-François Biron. Connecté pour le meilleur. La pandémie a accéléré l'adoption du numérique par les personnes âgées. Les clubs de tout genre, les réunions de famille ou les rendez-vous chez le médecin se sont déplacés en ligne. Jocelyne Benoît, 76 ans, a reçu sa première tablette durant la pandémie pour rester en contact avec ses proches. Cela s'est avéré pratique et le reste encore pour ceux qui ne peuvent plus se déplacer hors de chez eux. Les aînés des technophobes? Plus maintenant, croit Yves Bouchard, président de la FADOC. Les personnes âgées ne veulent pas être en reste. Elles sont curieuses et veulent savoir comment ça marche, dit-il. Une nouvelle génération arrive à la retraite et celle-ci a travaillé avec les ordinateurs, souligne-t-il. Et les retraités ont également plus de temps libre à leur disposition qu'ils peuvent passer sur les écrans. Jocelyne Benoît utilise principalement sa tablette pour communiquer avec sa famille. Son frère habite à Vancouver et sa sœur dans les cantons de l'Est, alors qu'elle réside sur la rive sud. Elle n'est pas la seule. 97% des internautes de 65 ans et plus utilisent l'Internet pour communiquer avec leurs proches, selon une enquête Net Tendance de 2024. Ça a un effet positif quand c'est pour garder des liens sociaux avec d'anciens collègues de travail, avec la famille, les amis, précise M. Yves Bouchard. Les aînés sondés par la santé publique de Montréal jugeaient aussi positivement les impacts des écrans dans leur vie, qui leur permettent de socialiser, surtout pour ceux qui habitent seuls. Ou pour le pire. Le président de la FADOC s'inquiète tout de même des risques de cyberdépendance. Il connaît quelques cas alarmants, dont une personne qui fait de la tablette de 6 heures du matin à minuit le soir, et même durant les émissions télé en soirée, décrit-il. Une personne aînée me mentionnait avoir une moyenne de 8 heures par jour sur l'Internet et parlait de dépendance, relate pour sa part Julie Castonguet, chercheuse au Centre collégial d'expertise en gérontologie du Cégep de Drummondville. Les aînés peuvent-ils devenir dépendants des écrans? Oui, mais c'est une population où l'impulsivité et la prise de risque sont moins grandes, décrit le chercheur Jean-François Biron. Maxime Véraud, responsable du programme Jeux, pathologie et cyberdépendance au Centre CASA, voit de plus en plus de personnes de plus de 50 ans demander de l'aide pour traiter leur dépendance aux écrans. Selon Jean-François Biron, certains moments de transition dans la vie les rendent plus vulnérables, la retraite ainsi que les deuils de partenaires, de vie et d'amis. Ce qui inquiète particulièrement le chercheur est la faible activité physique en lien avec une utilisation intensive des écrans. Il faut qu'on leur donne l'occasion de bouger plus, qu'on soit plus conscient que, pour eux aussi, ça a des impacts sur leur santé mentale et physique, dit-il, notamment en ce qui concerne le sommeil et l'anxiété. Les aînés craignent de perdre la richesse des contacts sociaux et d'être isolés, s'alarme la chercheuse Julie Castonguet. Certains me disent qu'ils ne s'appellent plus et ne se voient plus. Ils s'envoient des courriels ou des textos. De son côté, Jocelyne Benoît fait bien attention à garder ses liens sociaux malgré son utilisation de sa tablette. Elle consacre habituellement son lundi à sa journée de femme, où elle va au bingo et mange avec ses amis, confie-t-elle. Les aînés sont aussi vulnérables à la fraude et à la désinformation en ligne, d'autant plus que certains manquent d'habileté numérique. Si on offre en cadeau une tablette à un grand-parent ou un parent, il faut aussi donner le mode d'emploi social et psychologique, estime Yves Bouchard. D'autant plus que ceux-ci n'ont aucun garde-fou pour surveiller leur utilisation des écrans. La FADOC offre justement plusieurs programmes pour outiller leurs membres sur les bonnes pratiques concernant les nouvelles technologies. Il faut faire un effort pour les amener à être critiques sur leur utilisation, souligne Jean-François Biron. C'était « Les aînés aussi accros aux écrans », un texte de Florence Dancause paru le 2 juillet 2026 dans La Presse.